With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Bonsoir tout le monde, donnez-moi un C,
C.
Donnez-moi un R.
R,
donnez-moi un A,
A.
Donnez-moi, ouais, bon, enfin voilà, donnez-moi crac-crac. Exactement, ouais. Bonsoir et bienvenue dans Crac-crac, le magazine qui mouille dans vos oreilles. Bonsoir Camille.
Salut Poulpe, alors tu feras attention, t'en as un tout petit peu sur la joue.
Oui, merci beaucoup. Dans cette émission, plus que jamais, nous serons dans votre conduit auditif, mais aussi dans toutes vos autres cavités, bref, dans tout votre corps. Nous allons nous intéresser à l'un des thèmes qui nous préoccupe le plus toutes et tous, la
sécurité.
Non, non, pas la sécurité,
la salope.
Non, pas la salope, c'est
la salle des fêtes.
Non, bon, ça suffit, c'est la santé. Et oui, le rapport entre le sexe et la santé dans notre quotidien. Alors que si on avait reçu Jean-Michel Jarre, ça aurait été sexe et synthé. Ouais, on va peut-être arrêter cette impro, Jean-Mi, merci. Mais la santé dans le sexe et le sexe dans la santé, c'est un thème qui pose presque autant de questions qu'un hétéro blanc cisgenre devant un clito. Première question, est-ce qu'on prendrait pas plus souvent notre température si les thermomètres avaient des veines et un gland ? J'ouvre le débat. Deuxième question, quand le docteur vous demande dites 33, est-ce que je dois dire bah moi c'est plutôt 11,5 cm, ou je dois mentir et dire vraiment 33? Et finalement, découvrir le corps de son ou sa partenaire n'est-il pas finalement une partie de docteur Maboul? Oups, pardon. Ah, c'est pas là. Non, et là. Oui, alors peut-être. Ah, et là. Ah, ok, et ici. Ah, voilà. J'ai toujours été fasciné par des gens qui décident de faire 10 ans d'études de médecine pour finir le nez dans une chatte ou les doigts dans une prostate. Je vous assure que vous n'avez qu'à demander poliment à Camille et moi et vous pourrez le faire en simplement 5 minutes. Crac, crac, nous essuyer, c'est nous adopter. On va peut-être pas reboucher le trou de la sécu, mais on va au moins cracher dessus pour le lubrifier.
Oh là là, moi je me sens toute patraque là après cette intro. Alors aujourd'hui, nous allons donc parler dans Crac-Crac de sexe et santé. Parce qu'en fait, pas de vie sexuelle épanouie sans un minimum de connaissances sur la santé sexuelle. Bah sinon, on n'est pas détendu du slip. Par exemple, Poulpe, toi, t'as déjà eu une infection urinaire ?
Non, j'essaye tous les jours mais j'arrive pas à en avoir.
Et bah moi, entre mes 19 et 29 ans, j'ai dû en avoir, allez quoi, 62. Je vous jure, pourtant j'ai tout fait, tout pour les éviter. Faire pipi après l'amour, faire hyper gaffe à ce que le partenaire change de doigt ou de capote entre le vagin et l'anus, boire du jus de cranberry en veux-tu en voilà, arrêter le vin blanc, alors ça c'était chaud. Mais ça manquait pas, une partie de jambes en l'air faux folle, genre week-end romantique à l'étranger, et bim, le lendemain, punition pliée en deux de douleur, en larmes sur les chiottes, rendez-vous en urgence chez le médecin, antibio et compagnie. Et en fait je m'en foutais d'avoir des orgasmes ou pas, je voulais juste pas avoir de cystite, bordel, merde. Alors je suis pas la seule, la cystite touche 50% de la population féminine et les femmes sont 50 fois plus atteintes que les hommes. J'ai vu, vous en doutez, 15 000 médecins et gynéco. Et puis un jour, je suis allée chez un urologue. Et là, le mec, il m'a dit un truc de ouf. J'avais une déchirure insuffisante de l'hymen. En fait, après toutes ces histoires de cul, bah, j'étais encore un peu vierge. Appelez-moi Marie. Et du coup, en fait, c'est un urologue qui m'a vraiment dépucelée à 29 ans, avec un tout petit bistouri de rien du tout. Et depuis, plus de problème, fini le jus de cranberry, youhou ! Tout ça pour vous dire que le savoir est une arme et sans connaissance sur la santé sexuelle, bah, on reste très longtemps des puceaux et des pucelles. Il faut consulter, il faut se renseigner et surtout se faire dépister régulièrement pour pouvoir jouir sans entrave.
Et dans ce crac-crac sexe et santé, on reçoit Julien Méniel, ex-infirmier, aujourd'hui journaliste et célèbre youtubeur sur les questions de santé. Coucou Julien.
Salut, bonsoir.
Trop content que tu viennes ici.
Bah pareil, je suis ravi.
Bon bah ok, on est raccord.
Et Fred Colby, salut.
Bonsoir.
Tu es blogueur et activiste de la lutte contre le VIH, notamment pour l'association Paris sans Sida.
Nous subirons également la chronique Culture Beat de Maxime Donzel. Salut Maxime.
Salut.
Tu vas bien ?
Ouais, toi ?
Dommage.
Non.
Il y aura également un reportage et des messages sur le répondeur de l'émission. Et à la fin de cette émission, on va faire monter votre température avec une lecture pornographique. Est-ce qu'on y va ? Tout le monde s'est lavé les mains ?
Oui.
Oui, c'est bon. Ouais. Vous voulez du gel antibactérien ? Non ? Personne ?
Il n'y en a plus.
Parce que j'ai une gastro en ce moment. C'est pas grave, on y va.
Ah. Alors Julien Méniel, tu es un ex-infirmier. Tu as créé la chaîne YouTube Dans ton corps qui aujourd'hui a plus de 650 000 abonnés. Et ton objectif, c'est expliquer des notions complexes de santé avec des mots de tous les jours. Et je crois en fait c'est tes vidéos sur le sexe qui ont plus de succès. Tu confirmes ?
Ah oui, je te confirme. Ouais, les plus vues, c'est, ma vidéo la plus vue, c'est celle sur la masturbation. La plus vue et celle qui m'a pas rapporté une thune parce que démonétisée par YouTube.
Et tu continues pourtant à parler, tu parles de masturbation, de clitoris.
Ouais, bah oui, je vais pas me censurer, c'est quand même la sexualité, c'est un gros aspect de la santé, donc c'est hors de question de pas en parler, ouais.
Tu dis dans une de tes vidéos que de la jouissance aux urgences, il n'y a qu'un pas.
Ouais.
La phrase est très belle. Un peu flippante, mais très belle. C'est quoi ton top 3 des accidents sexuels ?
Bah, y a la rupture du frein, qui est un grand classique, qui n'est pas le plus grave, mais qui est souvent le plus impressionnant parce que ça saigne énormément. Donc c'est en plein coït, tout d'un coup, ça lâche et ça pisse le sang. Celui-là est pas mal.
On va parler de la fracture de la verge.
La fracture de la verge, ouais.
Le mot est ultra flippant. Ouais.
Surtout qu'il n'y a pas d'os.
Non,
c'est pas
un os.
Bah ouais.
Non, en fait, la membrane se pète, du coup, le sang se libère sous la peau. Du coup, tu as le pénis qui devient comme une espèce d'aubergine violacée, turgescente, machin et tout. Et là, pour le coup, c'est une urgence parce qu'il faut vraiment aller se faire purger manuellement.
Si vous avez une aubergine entre les cuisses, elle est aux
urgences. C'est pas bon
signe. On parle pas de l'émoji, on parle
d'une aubergine. J'allais dire, oui. Ça va vraiment être une super émission. Hein. On
ça
attaque
cool.
Direct.
Non,
est-ce qu'on peut parler d'un truc ? Un accident sexuel qui est un peu plus rigolo quand on en parle, moins quand on le vit, c'est le syndrome du pénis captif.
Ouais.
Tu connais ça?
C'est pas
une légende urbaine.
Le pénis captif.
Ouais, c'est le pénis. Alors c'est pendant des relations hétéros parce que c'est les muscles releveurs de l'anus qui sont une espèce de huit qui enserre à la fois le vagin et l'anus. La boucle qui enserre le vagin se spasme d'un coup et du coup ça emprisonne le pénis à l'intérieur. Mais ce qu'il faut savoir c'est que les releveurs de l'anus, les deux boucles peuvent pas être serrées en même temps. Donc si tu contractes celle de l'anus, tu décontractes automatiquement celle du vagin. Donc si ça vous arrive, à vous qui nous écoutez, un doigt dans l'anus et normalement ça contracte l'anus.
Pas besoin d'aller aux urgences collés l'un contre l'autre.
Avec une couverture, un plaid.
Julien Méniel, un doigt dans l'anus et ça repart.
c'est la solution à beaucoup de problèmes.
C'est vrai.
La guerre,
la
crise économique. Julien, tu parles aussi souvent de prévention. Alors moi, je viens lire récemment que sur les 4 dernières années, les IST ont été multipliés par 3 en France et que 40% des IST détectés en 2018 impliquaient les 15-24 ans. Comment t'expliques ça ?
Je pense que on a été, la génération d'avant, matraqué de prévention, sur le préservatif, etc. Qu'avec les progrès des traitements, notamment pour le VIH, c'est moins fait maintenant et que du coup, la jeune génération se dit finalement, peut-être le préservatif, c'est pas obligé. Sauf que le préservatif, ça protège de plein de trucs, toutes les IST.
Si je peux ajouter un petit truc, au niveau des IST, on les dépiste plus aussi qu'avant. C'est-à-dire qu'avant, on faisait pas les dépistages multisites, en fait. C'est-à-dire aujourd'hui, on dépiste vagin, bouche, anus, alors qu'avant, c'était que la prise de sang. Et il y a des IST asymptomatiques qu'on ne dépistait pas avant, en fait. Avant, c'était simplement des prises de sang. Aujourd'hui, c'est des dépistages multisites.
Il y a un truc, on parle très sérieusement, il faut rappeler quand même la chaîne Dans ton corps, elle est aussi drôle. Hein.
Ouais.
C'est important d'aller voir Dans ton corps sur YouTube. Mais on vit une époque où on n'a jamais eu autant d'informations sur tout, grâce à Internet. Et pourtant, j'ai l'impression qu'il y a un déficit d'informations des jeunes sur l'aspect anatomique du sexe.
Le meilleur exemple, c'est le clitoris, quoi.
Je vois pas de quoi tu parles.
C'est quoi? J'ai pas fait latin, donc je maîtrise pas. Mais le clitoris, fille comme garçon, c'est ça qui est surprenant. Ouais. Tu montres un schéma de la vulve à 50 personnes, 25 filles et 25 mecs. Ouais. S'il y en a un dixième qui sait vraiment bien placer le clitoris, c'est incroyable.
On l'oublie souvent dans les dessins.
Pas que dans les dessins, du coup.
Dans la vie aussi.
Voilà, c'est ça. Mais ça fait que très peu de temps, ça fait genre 2 ans, je crois, que dans les manuels scolaires, il est non seulement placé, mais
représenté.
Un peu expliqué autrement que c'est un machin. Voilà, c'est là, ça sert
un
à rien, on sait pas trop.
Ça sert à pas grand chose, on sait pas trop.
J'anime Crac-Crac depuis 2 ans et demi. Je suis vraiment au fait de plein de trucs. J'ai vraiment appris il y a 15 jours que l'urètre n'était pas dans le vagin de la femme.
Mais non. Okay. Ouais. Tu pensais qu'on faisait pipi par le vagin ?
Vous pissiez par la chatte. Et pour moi, je croyais que vous deviez enlever votre tampon pour faire pipi.
Mais non.
Alors, j'ai... même moi, tu l'as pas dit pendant l'émission. Ça, en fait. C'est un peu gênant.
J'ai 38 ans. Hein, c'est chaud. C'est très très chaud.
Sois pas trop dur avec toi, Poul, parce que moi, j'ai une amie de 30 ans, voilà, qui l'a appris aussi récemment. Ah ouais. Alors, elle-même est femme et possède.
Elle pisse, non elle
fait oui, mais elle pensait que ça sortait son vagin.
Okay. Ceci dit, ça peut arriver, hein, mais c'est une malformation.
Ouais.
Ouais.
Mais ça n'excuse pas tout, Julien.
Non, bien sûr.
Est-ce que, finalement, Julien, est-ce que beaucoup pratiquer le sexe et surtout faire attention à son corps et à celui de l'autre pendant les rapports sexuels, est-ce que ça permet d'avoir une meilleure santé sexuelle ?
Alors, faire attention à son corps et à celui de l'autre, ça permet d'avoir un meilleur acte sexuel, plus de plaisir pour les deux. Du coup, plus de chances pour les deux d'avoir un orgasme. Et l'orgasme, c'est oui, c'est un truc, on sait que c'est bon pour la santé. L'acte sexuel en lui-même, bah, c'est un exercice physique, donc c'est bon pour le cœur, c'est bon pour faire cramer des calories, etc. L'orgasme, c'est un antidépresseur, un anxiolytique, un somnifère, un antalgique. Ça fait, tu sécrètes des endorphines qui sont véritablement de la morphine que tu fabriques toi-même. Et ça a toutes ces vertus-là. Ça t'aide à t'endormir plus vite, ça fait baisser la douleur, ça calme le stress. Donc ouais, t'es en meilleure santé si t'as régulièrement des rapports sexuels et si t'as régulièrement des orgasmes.
Surtout.
Oh, Julien, t'es un puits de science si profond. Enfin, c'est ce qu'on dit dans le tout Paris, en tout cas. Ça me fait penser ta réponse, ça me rappelle une anecdote.
Sans déconner.
Monsieur Poul tape une anecdote sur absolument tous les thèmes de l'émission.
J'ai une anecdote sur le thème de l'émission. Une fois, je plottais les seins d'une ex. Et
t'étais une ex à ce moment-là déjà ?
Ouais.
Ça arrive.
Et j'ai trouvé un fibrome en touchant ses seins. Je lui ai dit, attends, je crois que je sens une boule et tout, machin. Et du coup, elle est allée se faire opérer, retirer le petit truc avant que ça devienne un peu une merde. Donc c'est vrai que c'est important en vrai d'explorer le corps de l'autre aussi pour trouver des...
C'est vrai que j'avais pas pensé à ça, mais c'est un bon truc. Ouais. Tu peux faire des frottis aussi si tu...
J'en ai un samedi là, j'en ai un prévu samedi. Pardon, je referme.
C'était l'anecdote de Monsieur Poulpe sur tous les thèmes de l'émission.
Eh bien merci Docteur Poulpe, alors je suis pas sûre de passer dans ton cabinet quand même.
Tu pourras passer dans mes cabinets.
Oh.
Merci.
Julien, est-ce qu'on est égaux, hommes et femmes, face aux problèmes de santé sexuelle ?
Waouh, c'est une bonne question. Alors déjà, tu t'as un peu répondu tout à l'heure pour les cystites.
C'est vrai, à ce niveau-là, on n'est pas égaux.
Ouais. Anatomiquement, on a un urètre qui est plus long que le vôtre. Les filles ont moins de chance que les mecs à ce niveau-là.
Moi, j'ai une hypothèse, je pense qu'on a plus de merdouilles. Et en même temps, on a quand même la chance, enfin, pour l'instant, mais d'avoir aussi des gynécos. Enfin, on a des gens spécialisés aussi par rapport... alors qu'il y a, je ne connais pas beaucoup d'hommes qui consultent des urologues.
Urologue, c'est pour les mecs et pour les filles. Gynéco, c'est andrologue, à la limite.
Ouais.
Effectivement, donc, on n'a pas de consultation régulière et tout. Après, tu as des trucs comme le papillomavirus, qui est la première cause de cancer du col de l'utérus. C'est beaucoup plus rare, ça arrive aussi, hein, les cancers du pénis ou de l'anus ou de la gorge chez les mecs, c'est beaucoup plus rare, donc là les filles sont plus exposées. J'ai dit explosées ?
Exposées,
pas forcément, mais elles sont plus exposées en tout cas.
Elles sont plus exposées et c'est indétectable et ça a des grosses conséquences. Ouais.
Julien, tu es en première ligne, toi, sur Internet auprès du public. Est-ce que tu reçois beaucoup de questions d'internautes ?
Ah mais de ouf, des questions, des photos même. J'ai des dick pics, mais pas des dick pics abusés érotiques, des dick pics vénériennes quoi.
Ok.
C'est comme des dick pics vénères, mais plus sales. J'ai plein de questions. Je réponds pas. Enfin, je réponds que je peux pas répondre en fait.
Va
voir ton médecin parce que même si j'étais médecin, je pourrais pas te faire une consultation comme ça. Et ça montre que t'as toute une génération parce que les gens qui m'envoient ce genre de questions là, c'est plutôt des jeunes. Et tu te rends compte que toute cette tranche de la population, ils sont vraiment pas super bien informés. Sur...
Il
y a des questions.
La demande la plus étonnante que t'aies eue ?
Tout ce qui tourne autour de la peur de la grossesse. Enfin, tu vois, les questions genre, c'est vraiment sûr qu'après une sodomie, je peux pas être tombée enceinte.
Si le liquide coule, ça va.
J'en ai eu une il y a pas longtemps d'un garçon qui disait, je crois que j'ai un problème. Systématiquement, quand on arrête de faire l'amour et que j'ai éjaculé, je débande.
Merde, le pauvre.
Oh merde, oh
là là. C'est génial.
C'est voilà.
Quand on est malade, on appelle SOS médecin, mais quand on a une histoire de cul à raconter, on appelle crac crac. Mais on n'est jamais là, donc il faut nous laisser un message sur notre répondeur. On a des copains, des copines qui nous laissent des messages en rapport avec le thème de l'émission. Et pour cette émission, on a Davy Mourier, que tu connais, Julien. Il y a Davy Mourier qui nous a laissé un message, on l'écoute.
Salut, c'est Davy. Je voulais vous parler non pas de rupture du frein, mais de rupture partielle du frein, ce qui n'est pas pareil forcément, puisqu'il y a le mot partiel. Il y a vraiment très longtemps, j'étais avec une petite amie et on s'était frotté avec nos vêtements. Et c'est ça qui a fait que j'ai eu un petit problème. Voilà, j'ai senti un petit truc dans mon pantalon, mais on a continué, on a fait l'amour, j'ai mis un préservatif, etc., etc. Sauf que quand j'ai retiré le préservatif, je me suis rendu compte qu'il y avait du sang, non pas sur le préservatif, mais dans le préservatif. Là, j'ai flippé. Et on s'est rendu compte que j'avais une rupture partielle du frein, c'est-à-dire que mon frein n'était pas complètement rompu, mais qu'il saignait. J'ai dû laver mon zizi avec du savon neutre pendant 3 mois, et j'ai pas eu de rapport sexuel pendant 3 mois. Après, ça s'est réparé, mais j'ai eu une petite cicatrice blanche tout le temps sur le frein. Et 8 ans plus tard, j'ai eu le même problème. J'ai fait l'amour, et paf, ça a rompu. 3 mois encore d'attente. Du coup, j'ai peur, parce qu'on dit toujours « jamais 203 », donc je flippe. Je vis avec une épée de Damoclès qui a un petit frein au-dessus de ma tête.
Bah, on te fait des bisous.
Et... Oui, bah oui.
Oui, c'est ton problème, Davy. Pour certains, le sexe, c'est la santé, mais pour d'autres, le sexe, ça peut être une sorte de maladie ou tout du moins une addiction. On peut être maladivement accro au sexe et surtout au porno. Par exemple, quelqu'un qui consulte des sites liés au cul tous les jours, 10 fois par jour et qui parle que de ça depuis 10 ans, je pense naturellement à toi, Camille, c'est ce que tu fais depuis 10 ans.
Oui, mais moi, c'est pour le travail que je le fais.
Ouais, mais tu te masturbes quand même.
Oui, mais c'est pour le travail, moi.
D'accord.
Je me suis rendue à l'hôpital Marmottan à Paris dans le 17e qui s'occupe des cybersex addicts. Donc c'est ceux qui sont accros au sexe sur internet, on écoute. Je suis devant l'hôpital Marmottan et c'est assez dingue, ça fait 10 ans que j'écris sur la sexualité et je savais même pas qu'il y avait un service sur la cyber addiction sexuelle à Paris. Je vais aller directement voir Muriel Medaoui qui est spécialiste en cyber addiction. Bonjour Muriel.
Bonjour Camille, enchantée.
Merci de me recevoir.
Vous
Muriel Medaoui, vous êtes sexothérapeute et vous êtes spécialisée dans la cyber-addiction sexuelle. Alors, c'est quoi la cyber-addiction sexuelle ?
Ça concerne les personnes qui passent énormément de temps sur des sites porno et qui en souffrent, bien sûr.
Quand on dit beaucoup de porno, c'est quoi ?
C'est-à-dire que c'est des personnes qui vont jusqu'à 2, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, même plus, même des nuits, sur visionner des pornos. S'ils viennent, c'est parce que bon, l'addiction, c'est une dépendance, mais ils commencent à ne plus supporter cette dépendance ou leur femme ne peut plus la supporter.
C'est plutôt une patientèle masculine ?
Oui, très peu de femmes, 4 en 6 ans, et beaucoup, beaucoup d'hommes et hétéros, pas gays. Je viens voir si je suis vraiment addict, et puis d'autres qui savent qu'ils le sont et qui ne peuvent plus supporter d'aller sur leur lieu de travail consulter, sur leur portable dans les toilettes. Donc, c'est plus vivable pour eux.
En tant que thérapeute, pourquoi vous êtes spécialisée dans cette addiction qui est quand même assez particulière, dont on n'entend pas beaucoup parler ?
J'ai trouvé que c'était très intéressant parce qu'il y a une réelle souffrance. Il y a des couples qui volent en éclats ou des personnes qui ne sont même pas capables d'être en couple. Ou s'ils sont en couple, ils ne sont plus capables de faire l'amour normalement parce qu'ils sont assaillis par les images de porno. Donc, avoir un rapport sexuel normal, ça devient compliqué pour eux.
Comment est-ce qu'on peut distinguer votre démarche qui est dans le soin et dans la thérapie avec les personnes plutôt anti-porno ou puritaines qui vont culpabiliser les jeunes autour du porno ou de la masturbation ? Comment faire la différence, en fait, entre une démarche hospitalière et une démarche plus idéologique ?
Dans la façon que j'ai de travailler, que devrait pour moi avoir tous les thérapeutes, c'est si on décide de recevoir ce genre de public, il ne faut surtout pas émettre de jugement. Moi, je ne suis pas du tout contre le porno, si vous voulez, je n'ai pas du tout une démarche anti-porno. C'est des gens qui viennent, qui souffrent, avec qui j'essaye de travailler. Mais s'ils regardent du porno et qu'ils sont contents, il n'y a aucun problème. Enfin, c'est pas...
C'est quoi le vécu d'un patient le plus surprenant qu'on vous ait raconté ?
Un des plus intéressants, c'était un homme cadre, marié, 4 enfants. Et dès qu'il partait le matin, il arrivait à son travail. Dès qu'il arrivait à son travail, il se connectait sur des sites gays. J'ai suivi pendant 2 ans avec cette possibilité, justement, qu'il reconnaisse son homosexualité. Et il m'a dit, mais vous vous rendez compte, si jamais j'essaie et que ça me plaît, je dis, bah, vous reconnaissez votre homosexualité, c'est pas... Et il me dit, oui, mais je perds ma famille, mes enfants, mes amis, qui n'ont pas compris pourquoi je n'avais pas manifesté avec eux contre le mariage pour tous. Et donc, il venait me voir, et avant, il allait à l'église se confesser, ou il venait me voir, et après, il allait à l'église se confesser. Ce qui était très mignon, et quelqu'un de très intelligent, avec beaucoup d'humour, mais bloqué par le contexte social.
Il y a des très jeunes aujourd'hui qui viennent vous voir ?
Oui, il y a des jeunes, enfin des patients qui ont 19, 20 ans. Et alors justement, il faut comprendre qu'avec Internet, ils ont tous découvert la pornographie. J'avais un jeune homme qui avait 19 ans, qui était venu. Il avait une petite amie. Et puis à un moment donné, ça faisait 1 an que ça flirtait. Donc à un moment donné, c'est arrivé. Et alors, évidemment, bah, il s'est comporté comme il avait toujours vu. Donc on se déshabille, pas de préliminaire, et je mets mon... J'aimerais bien que tu me suces, quoi. Donc c'est simplement leur faire comprendre que les actrices de porno prennent, et les acteurs aussi, des substances qui leur permettent de réaliser certaines pratiques sans difficulté.
J'ai une dernière question, c'est que bah, depuis 10 ans, tous les jours, je clique sur des sites liés à la sexualité. À peu près 80% de mes messages sont autour du sexe. Est-ce que vous pensez qu'en fait, il y a un petit risque d'addiction en fait, au sujet ?
Bah, écoutez, si vous cliquez, vous réalisez, et vous rencontrez les personnes et que bah, vous prenez votre pied...
Ah non, mais je ne consomme pas, hein. c'est un travail journalistique. Merci beaucoup Muriel pour toutes ces réponses.
Merci Camille Jon, merci beaucoup.
Merci Camille pour ce reportage très instructif, espèce de pervers.
Toi-même.
Merci. Alors, pour savoir si nous aussi on est addicts, comment on fait ?
Il y a un test de dépistage d'addiction sexuelle, c'est le test de Carnes, et c'est en 25 questions. Alors moi je l'ai fait, j'ai eu 9 sur 25, donc en fait ça va à peu près. Le problème c'est que c'est un test des années 80, donc c'est un peu old school. À un moment donné, ils demandent genre, est-ce que vous êtes abonné à des revues érotiques ? Et en fait, bah voilà, Poule, tu fais quoi là ?
Pardon, je t'écoutais pas, je regardais un porno, tu disais quoi ?
Ok, bah on va enchaîner avec quelqu'un qui a raté sa vocation parce qu'il cherche des bites à la télé, alors que s'il avait été docteur, il en verrait toute la journée. C'est Maxime Donzel et sa rubrique Culture Bite.
Et oui, bonsoir, je m'appelle Maxime et j'ai une maladie bénigne, enfin je crois, je vois des bites partout. Et c'est pour ça que je viens vous expliquer où trouver des scènes de cul dans la pop culture. Et aujourd'hui, puisqu'on parle de sexe et santé, je vous parle de séries médicales. Bah oui, c'est logique, dans les hôpitaux, il y a des gens tout nus. Bon, ok, il en manque des bouts et ils sont en train de crever, mais une bite est une bite, hein, on va pas chipolater. Le truc, c'est que dans ces séries, quand on voit des gens tout nus, c'est généralement des acteurs qui ont un coach et qui bouffent que de la protéine en poudre. C'est bien, mais il n'y a pas que ça dans la vie. Et moi j'aime bien voir un peu des gros, des vieux, des moches, dès qu'ils tiennent pas debout. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup une série française qui s'appelle Nu, qui se passe dans un futur proche dans lequel les habits sont interdits et dont le héros se réveille allongé sur un lit d'hôpital dans le plus simple appareil.
Par mesure de sécurité, tout le monde doit être nu dans les lieux publics. Liberté, égalité, nudité.
Alors dans cette série, il y a des bites, des chattes et des boobs dans tous les plans, de toutes les couleurs et de toutes les formes, même si je dois dire que celle du héros, elle est vraiment bien, hein. Sans vouloir entrer dans les détails, on est sur de la non-circoncise à urètre apparente, réglant lourd, anglais vers l'intérieur, veinage moyen, étoison pubienne, châtain contrôlé avec effet naturel, burne basse et solide. Non, franchement, un très bon produit qu'on recommande. Parce que dans les séries médicales, quand il y a de la bite, le problème c'est que généralement, elle n'est pas dans un très bon état, hein, voire elle a carrément été arrachée avec les dents.
Pourquoi on n'essaie pas de recoudre le pénis sectionné ?
Les dents ne coupent pas, elles déchirent. On peut recoudre que ce qui est coupé net, si seulement elle lui avait coupé avec un couteau.
On remercie Grey's Anatomy pour ce moment. Une série qui a tout de même la décence de nous livrer des doctrices et des docteurs archi-sexy depuis 11 saisons maintenant, avec des surnoms comme McDreamy, c'est-à-dire mec de rêve, mais qui en français s'appelle Docteur Mamour, alors qu'il est scientifiquement prouvé que le mot Mamour met fin à toute érection instantanément. N'empêche que mine de rien, les docteurs, eux, on voit jamais leur zizi. Hein. Ça, pour dire déshabillé, rassurez-vous, oui, oui, le slip aussi, ça y va, mais eux, on peut attendre longtemps avant de voir la leur. On a le temps d'incuber la varicelle. Hein. Elles sont où les bourses de Dr House? Et les gougounes de Dr Queen? Et le cookie de Dr Doogie? Non, bon, lui, non, il est mineur, donc non, merci. Alors, si, il y a un docteur qui montre tout. Dans le film et la série Watchmen, il y a un docteur tout nu, mais alors vraiment tout nu. Ok, il est aussi tout bleu. Il s'appelle Dr Manhattan et son pénis de demi-dieu est à la hauteur de nos espérances. Bon, le seul problème avec les docteurs, c'est que ça blablate. Hein.
J'étais impatient de voir un tel miracle, mais tout ce temps, j'oubliais celui de l'accouplement humain.
Oui, oui, super. Bon, allez, allonge-toi, là, on va pas y passer la soirée, là. Mais ça, c'est les docteurs. Tu veux juste un coup de bite? Mais non, faut qu'ils t'expliquent l'origine des cellules et qu'ils niquent l'ambiance en disant des trucs de médecins, genre « on va tous mourir un jour », alors que c'est pas totalement prouvé, hein. Enfin, l'hôpital n'est pas complet sans son infirmière perverse. Il y a un véritable culte de l'infirmière sexy, ce qui est bizarre, parce que dans la vraie vie, les infirmières portent généralement des crocs et ont généralement autre chose à faire que d'exciter des patients qui font caca au lit. Pourtant, même dans le porno, les infirmières on la cote.
Vous savez, dans notre clinique, nous avons des règles très très strictes et nous devons absolument vérifier l'hygiène de notre personnel.
Et oui, vous avez reconnu Katsumi à l'école des infirmières, qui n'est autre que la suite directe de Katsumi à l'école des sorcières. On ne réalise pas l'étendue du cursus universitaire de Katsumi. Je ne serais pas surpris d'apprendre qu'elle a aussi fait l'école des chargés de marketing numérique. En tout cas, les pornos sur des médecins ou infirmières, ça cartonne. Je sais d'une source anonyme que les pornos sur des infirmières sont les plus regardés sur les chaînes qui diffusent du porno en France. Ah non, mais ça, c'est les Français, hein. Complètement hypochondriaques. Du coup, bah, les hostos, ça les excite. Faut pas chercher. Excusez-moi, faut pas chercher. Ah, oh, j'ai tous. Ah, ça y est, j'ai un truc qui va pas là. Ils ont été désinfectés, les micros. Parce que là, je lance le jingle et j'appelle un médecin.
Merci, Maxime. Bravo. Merci, Maxime. On peut dire que ta bonne humeur est contagieuse et ton herpès aussi, d'ailleurs.
Merci Maxime, on est toujours dans Crac Crac, sexe et santé, et évidemment, on va parler prévention. Je me tourne vers Fred Colby. Fred, toi, tu te présentes comme PD, séropo-activiste. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer quelles sont les actions de prévention que tu mènes aujourd'hui?
Alors moi, je suis surtout présent sur les réseaux sociaux, en fait. J'ai un blog qui s'appelle Fred Colby, où je parle de ma vie en tant que séropo. Je travaille sur aussi déconstruire les idées reçues sur la vie avec le VIH, parce qu'aujourd'hui, en fait, il y a un décalage entre les avancées scientifiques et les représentations que la population générale ont sur les personnes vivant avec le VIH, en fait.
Et tu as créé aussi le personnage un petit peu de Dr Naked. Donc, en fait, c'est un homme qui interprète un médecin, mais un peu dénudé, qui va parler de prévention.
Alors, je ne l'ai pas créé, mais moi, j'anime ses réseaux sociaux, en fait. Dr Naked, c'est un médecin qui a souvent chaud. Du coup, il est nu sous sa blouse.
Normal.
Oui, c'est ça. La base. Et bon, il s'avère qu'il est joué par un modèle qui s'appelle Armando Santos, qui a pas mal de succès, notamment auprès des gays. Et on va essayer de faire passer des messages simples et fun et sexy, mais tout en parlant quand même de prévention, de VIH, de santé sexuelle, etc., à travers ce personnage.
Fred, avec toi, on voulait évoquer la PrEP. Ouais. Est-ce que déjà tu peux expliquer ce que c'est pour les gens qui connaissent, enfin qui entendent ce mot pour la première fois?
Alors PrEP, en fait, c'est une prophylaxie, donc pré-exposure en anglais, ça veut dire c'est un traitement que les personnes prennent avant un rapport sexuel. Donc c'est pour les personnes séronégatives. Dans ce traitement, il y a des molécules donc qui font partie des trithérapies des personnes séropositives et qui en fait bloquent le VIH donc lors d'un rapport sexuel dit à risque, en fait. Et voilà, en France, c'est autorisé depuis janvier 2016 et c'est pas encore trop connu. Le public gay s'en est vite emparé parce qu'ils ont vite compris que ça marchait et que c'était plutôt efficace. Mais voilà, le grand public connaît peu encore cet outil de prévention qui est assez révolutionnaire.
Et comment ça se fait que, enfin, ça existe depuis 3-4 ans, mais on entend peu parler. Pourquoi c'est si compliqué d'en parler?
Parce qu'il n'y a pas eu de campagne nationale sur la PrEP. Je pense que ça va changer là, dans les mois à venir, puisque les médecins généralistes vont pouvoir être amenés à prescrire la PrEP. Donc il y a aussi un travail de formation à faire pour ces médecins-là, parce que la PrEP, ce n'est pas que prendre un traitement. Tu rentres aussi dans un parcours de santé sexuelle, c'est-à-dire que pour avoir ta prescription, tu es obligé de faire un dépistage complet VIH et IST tous les 3 mois. Donc en fait, tu rentres dans
un
parcours
de suivi régulier. Ouais.
Comment t'expliques le fait que c'est surtout la communauté LGBT qui est au courant de l'existence de la PrEP et pas du tout le monde hétéro?
Bah, parce que la communauté gay, elle a toujours été très attentive à ce qui se passe au niveau du VIH, parce que c'est une communauté qui est plus touchée que la moyenne. Elle est très exposée au VIH. Aujourd'hui, en France, 40% des nouvelles infections, c'est des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes. Et c'est vrai que quand la PrEP est arrivée, ils se sont jetés dessus, quoi.
Et comment t'expliques que les hétéros ne soient pas du tout au courant de l'existence de la PrEP ? C'est fou, quand même. C'est une vraie révolution majeure, quand même, dans le milieu de la santé, quoi.
Moi, je dis souvent que la PrEP, en fait, c'est le vaccin du VIH. Ouais. C'est le vaccin qu'on attendait. Alors, c'est pas tout à fait un vaccin, parce que c'est quand même un traitement à prendre, c'est un peu contraignant, etc. Mais aujourd'hui, c'est ce qui se rapproche le plus d'un vaccin. Après, c'est à chacun de choisir l'outil le plus adapté à sa vie, à ses pratiques, à ses contraintes aussi.
En fait, pendant des années, le seul message de prévention, je dirais, c'était sortez couvert. Mais aujourd'hui, il y a une multi-prévention à faire.
Ouais, en 2019, on ne peut plus se contenter de parler du préservatif, qui est très bien. C'est un super outil. Mais tout le monde ne peut pas ou ne veut pas prendre le préservatif. Donc, c'est une réalité. Alors, soit on fait la morale aux gens en disant c'est pas bien, il faut mettre une capote et ça marche pas. Soit on trouve des alternatives. Donc, la PrEP est une alternative. Le traitement des personnes vivant avec le VIH est une alternative aussi. Parce qu'aujourd'hui, moi, mon traitement protège mes partenaires. Parce qu'en fait, le fait de prendre un traitement rend ma charge virale indétectable. Donc, le taux de virus dans le sang, il est si bas que je ne peux pas transmettre le VIH. Donc, c'est pour ça qu'en fait, c'est hyper important de se faire dépister et traiter. L'épidémie non diagnostiquée en France, on estime qu'elle est à 20 000 personnes. C'est des gens, ils ne savent pas qu'ils sont séropos. Du coup, ils transmettent à leurs partenaires sans le savoir. Ouais. Et ça continue. Voilà.
Grâce au traitement, justement, il y a plein de personnes séropositives qui ne contaminent plus leurs partenaires, comme tu le disais, mais pourtant il reste énormément de sérophobie. Comment t'expliques cette sérophobie qui est encore hyper présente ?
C'est, en fait, la sérophobie, pour moi, c'est la peur ou le rejet des personnes vivant avec le VIH. C'est pas toujours quelque chose de rationnel, en fait. C'est surtout de l'ignorance, en fait. Aujourd'hui, les gens ne savent pas ce que c'est vivre avec le VIH. Et la sérophobie, c'est quelque chose de... Moi, je le combats au quotidien, sur mon blog, etc. Parce que ça peut être des petits trucs du quotidien qui font mal. Par exemple, sur les applis de drague, Grindr pour les gays, c'est l'équivalent de Tinder.
Ouais.
Les mecs, ils vont te demander, est-ce que t'es clean ? En fait, clean en anglais, ça veut dire propre.
Oui, donc l'inverse, c'est sale, quoi.
Bah, c'est ça, en fait. Donc moi, je réponds avec humour. Je me suis pris une douche ce matin. tout va bien. Mais en vrai, ce que ça sous-entend, c'est que les personnes séropos ne seraient pas propres, en fait. Et derrière tout ça, les mots ont un sens. Et moi, je fais très attention aux mots. Donc je fais de la pédagogie par rapport à ça aussi. Voilà, c'est important.
Et comment on fait ? Toi, tu le fais, mais est-ce que c'est facile de pouvoir parler de prévention sans oublier le côté excitant et fun du sexe ? Comment tu fais aujourd'hui pour le faire ?
Moi, j'en parle très simplement. En fait, pour moi, la sexualité, c'est avant tout du plaisir. Voilà. Et le VIH fait partie de ma vie, mais ça définit pas ma sexualité. Moi, je suis dans un couple séro-différent, donc mon mec, il est séro-négatif, on est ensemble depuis 6 ans. Et en fait, c'est même pas un sujet. Je prends mon traitement, donc il n'y a pas de souci. Je peux pas lui transmettre le VIH. Après, c'est pas si simple pour tout le monde. J'ai beaucoup de gens séropos autour de moi qui peuvent pas en parler à leur famille, à leur employeur, à leurs amis. En 2019, en France, on ne meurt pas du VIH. Si on est dépisté.
Quand on est dépisté.
Voilà. C'est ça, en fait, qu'il faut dire.
Ouais.
Donc, en fait, l'important, c'est de décomplexer tout ça, quoi, en gros.
Ouais. Décomplexer et puis faire de la visibilité aussi. Ouais. Il faut arrêter de montrer des séropos qui meurent, qui souffrent, qui sont malheureux. Je dis pas qu'il y en a pas, mais peut-être que si on montre un autre visage du VIH, les gens, ça va leur faire moins peur pour aller se faire dépister et traiter après.
Et éduquer le public. Ouais.
Tout à fait.
Allez, tout le monde le sait, quand on a un problème de santé inquiétant, la première chose à faire en priorité absolue, c'est vraiment très important. Je pense que vraiment, Fred et Julien, vous serez d'accord avec moi, c'est d'aller sur Internet pour y aller. Et d'Internet, tu as toutes les réponses en matière de santé. D'ailleurs, tu es là pour le prouver, Julien, et toi aussi, Fred. Et ceux qui l'ont compris depuis bien longtemps, ce sont les utilisateurs des forums sexo type Doctissimo qui posent de vraies bonnes questions et nous, on leur apporte de vraies mauvaises réponses. Ou alors, c'est l'inverse, je ne sais plus. Bref, voici Doctissimoche. Maxime, tu peux me faire un jingle Doctissimoche ?
Doctissimoche !
Le groove est en toi. Donc, nous avons un premier internaute qui s'appelle 664YV. Voici son message. Salut ! Bon, voilà mon problème. Sous mon prépuce s'entasse rapidement du blanc, du smegma, à ce que j'ai pu lire. Attendez, je vous vois arriver avec vos « mais lave-toi ». Eh bien, figurez-vous que je nettoie mon pénis 2 fois par jour, justement parce que j'ai trop de smegma. Mais voilà, je ne sais pas pourquoi ça revient aussi rapidement en quelques heures. Bien sûr, progressivement, hein, j'ai pas de quoi faire un gâteau en 12 heures, mais c'est chiant. De plus, à force de laver trop souvent et donc de frotter trop souvent, je me fais régulièrement de petites blessures au pénis parce que ça diminue la peau de mon sexe.
C'est David Mourier encore.
Donc, pouvez-vous m'aider à trouver l'origine de ce problème et surtout comment le traiter autrement que l'hygiène, qui n'est en rien un problème chez moi.
Alors moi j'ai une idée, je propose qu'il ouvre une pizzeria.
Ou qu'il fasse une petite salade grecque.
Ouais, la fameuse ricotta et feta.
Ça me dégoûte un peu. Alors c'est marrant parce que tu as découvert l'urètre des meufs, mais moi je découvre
le smegma.
Quoi. Ça fait penser à smegta.
Tu sais qu'il y a du porno spécialisé dans ça, tu tapes dick cheese.
Non.
Et tu vois vraiment.
Si, ouais. Non. Si. Bah, bon, tu vois, grâce à toi, on apprend des choses. Hein, ouais.
Alors, ne me demandez pas comment je le sais, je suis tombé dessus par hasard.
Ça vient d'où, smegma ?
C'est vraiment la même chose que. Enfin, c'est pas la même chose, mais c'est l'équivalent des pertes blanches chez les nanas, en fait. C'est les résidus de la fonction auto-nettoyante de la tub.
C'est de la mouille, voilà. C'est de la mouille de tub, en fait.
Bon, en tout cas, on lui conseille d'aller voir quelqu'un.
Non, mais
y a rien,
en vrai, la seule solution, c'est de se laver, mais pas deux fois par jour. Une fois par jour, parce que plus tu te laves, moins c'est.
Ouais, c'est pas bon.
Non.
Vous trouvez un fan de porno, smegma ?
Ouais, c'est ça, ouais.
Ouais, il pourrait faire des vidéos.
Faire des tartines.
Ouais. Moi, direct, dès que l'émission est finie, je vais taper Dick Cheese. Hein.
Okay. Fais ta place.
Prochain message de LED90JI. Bonjour, je souffre de sexomnie. En bref, c'est du somnambulisme sexuel. Il m'arrive la nuit de faire l'amour à ma copine dans un état de semi-conscience, voire totalement inconscient, et de ne pas m'en rappeler le lendemain. Jusque-là, rien de grave. Ma copine est au courant et ça ne la dérange pas. Mais là où cela me perturbe plus, c'est que j'ai récemment dormi avec un pote. Et ma main a directement été dans son caleçon. Heureusement, le protagoniste s'est réveillé et connaissait déjà plus ou moins mon problème. Jusqu'à preuve du contraire, je suis 100% hétéro. Mais je découvre tout juste cette maladie. Quelqu'un d'autre en est-il atteint ? Comment peut-on se soigner ?
Est-ce qu'on l'achète, ce mensonge ?
C'est un vrai truc, hein, la sexomnie.
C'est vrai.
Ouais. La sexomnie, c'est un vrai truc. Ouais. C'est comme toutes les maladies un peu cheloues comme ça. Ouais, c'est vite fait, ça peut servir d'excuse. Quoi.
On peut s'en servir.
Excuse-moi,
comme...
je suis sexomniaque actuellement. Ouais. Je suis hétéro, hein, mais vraiment.
Alors, les gens qui se définissent 100% hétéro.
En fait, est-ce que déjà la phrase, déjà, c'est un indice on est sur un red flag total.
Là, on est sur un hétéro curieux qui n'assume pas. J'en connais plein.
Donc attends, quand on dit on est 100% hétéro, ça veut dire que c'est pas vrai.
Bah, un mec hétéro, normalement, qui est sûr de sa sexualité, va pas dire je suis 100% hétéro.
N'a pas besoin, en fait, de se rassurer.
C'est une citation de Section d'Assaut qui avait dit on est 100%
hétéro. Et 100% homophobe aussi.
Mais justement, en parlant de culture, Camille, est-ce que tu as des prescriptions culturelles ?
Tout à fait, j'ai des recommandations culturelles, figure-toi. J'ai un très chouette livre pour les personnes possédant un vagin, donc personne autour de cette table, mais ce n'est pas grave. Ça s'appelle Connais-toi toi-même, c'est vrai, tout de suite je juge sur l'apparence. Connais-toi toi-même, guide d'auto-exploration de l'anatomie féminine, de Clarence Edgar Rosa, publié aux éditions La Musardine. Également le livre Moins de stress grâce au sexe, de Magali Crozet-Calisto chez Albin Michel. C'est une véritable étude en fait sur les bienfaits physiologiques du sexe dont tu parlais, Julien. Et un super livre qui parle de prévention des risques auprès des jeunes, ça s'appelle Génération Q, c'est signé Docteur Capote aux éditions La Ville Brune.
Merci Camille pour ces prescriptions culturelles.
Ouais, je te ferai une petite ordonnance.
Ok. Vous savez, crac-crac, c'est comme une gastro le deuxième jour. On croit que c'est fini, mais non, en fait, le meilleur reste à venir. Alors voici l'Obstory, Story, le moment un peu ORL où on va chouchouter vos tympans, vous susurrer des histoires et hop, vous aspirez le bouchon de ces rumens. L'Obstory, Story, vous le savez, maintenant, à force d'écouter cette émission, c'est le moment où les oreilles chastes arrêtent ce podcast et les pervos continuent. Yeah. On arrive dans le contenu explicite. Alors, Julien, avant de venir dans ce podcast, t'as été très clair. Tu n'es pas médecin. Tu es un ex-infirmier, certes, mais tu n'es pas médecin.
Exact.
Donc tu ne fais pas de diagnostic.
C'est ça.
Tu confirmes ?
Je confirme.
Très bien. Donc pour ce Love Story, c'est simple, on va lire un texte ultra cul qui met le corps à rude épreuve. Et toi, Julien, tu vas diagnostiquer finalement les différentes lésions et dangers médicaux induits par ces pratiques. Évidemment, Fred, sens-toi libre d'intervenir aussi. Okay. Camille va vous aider un petit peu et moi, je lis le texte.
On va faire les infirmières sexy, Fred.
Oh yeah.
Ok. Camille.
Alors, on s'est inspiré d'un roman porno qui s'appelle « J'étais infirmière dans une famille de bourgeois pervers » de Juliette N aux éditions Mediamine. Donc c'est une histoire en fait d'infirmière à domicile. On t'écoute, Poulpe.
Quand je suis arrivée dans le bureau de Monsieur Fernand pour lui changer son pansement, il venait de rempoter son hortensia. « Asseyez-vous », me dit-il en pointant la liseuse de ses gros doigts tachés par le terreau. Et écarter les jambes. J'ai vite compris que c'est moi qui allais subir un examen très approfondi.
Alors là, tout de suite, non. Hein, les doigts sales avant de doigter, on est d'accord ?
Non, le terreau dans le vagin, c'est moyen.
Qu'est-ce qu'on risque ?
Ah bah le tétanos.
Ah oui,
le tétanos, c'est pas sur les trucs rouillés, c'est dans la terre en fait.
What? Okay.
Le tétanos de la chatte, bah ouais, bien sûr.
J'avais pas ça.
Bah ouais.
On vient d'apprendre.
Le tétanus, enfin si c'est un truc. Ah. Rectal.
Pas mal.
Waouh. C'est la fameuse signature de Julien. Ok, je reprends. Puis Monsieur Fernand s'est agenouillé et a posé ses lèvres sur mon pubis. Sa bouche s'est insinuée à l'oreille de ma fente. Pensant qu'il souhaitait me lécher le clito, j'ai avancé le ventre. Mais au lieu de la douceur de sa langue, ce sont ses dents qui ont saisi mon bouton. Avant que j'aie réalisé ce qui m'arrivait, une douleur atroce m'a déchiré le sexe. Il m'avait mordu, le salaud.
Bah, non plus, hein.
C'est pas cool, ça.
Non, voyons, ouais, ouais, ouais. Là, on est sur une fracture du genou, parce que le clitoris, c'est un genou.
Ah, ah bon.
Alors ouais. Attends, le tétanos ça vient pas du fer et le clitoris est un genou. Je vais revoir mon anatomie. Ouais.
Alors, je comprends pourquoi je suis gay moi en fait. C'est vraiment trop compliqué le corps de la femme.
Compliqué. Attends, non, explique-nous. Quand on mord un.
Non, mais en fait le clitoris c'est un iceberg. Et en fait le c'est le gland en fait, ouais. La partie externe. Et tout ce que t'as à l'intérieur c'est vraiment hyper semblable aux constructions du pénis, ouais. Ou l'inverse. Et t'as le ah putain, je suis en train de douter, je sais plus si c'est le coude ou le genou, mais en tout cas le
moi j'aurais dit le coude,
tu vois la forme, ouais, ouais. Ça fait comme ça et en haut ça y a le gland avec ouais. un petit crochet, ouais. Et ouais non c'est le coude en fait, donc fracture du coude
du coude du clitoris, aïe,
pas sexy,
ouais. À un certain moment, un god sorti comme par miracle de je ne sais où a fait son apparition. Il représentait de façon hyper réaliste un membre masculin long et noueux. « Tu as envie que je le mette dans toi ?» dit-il sans m'interrompre. J'ai hoché la tête. « Par devant ou par derrière ?»« Oh, j'ai une meilleure idée. On va et vient. » En un minimum de mouvements, M. Fernand commença à m'investir par les deux trous avec le même engin. Il alternait comme si j'étais une flûte.
Mais non, voyons, monsieur. Alors, licence poétique, on a le droit d'écrire tout ce qu'on veut dans les textes de cul, mais pareil. On est d'accord,
ben oui,
Fred,
oui.
Julien.
On change de trou,
on change de
capote, ouais. On change de jouet.
Ouais, ouais.
On devrait faire des stickers, des tags ou des tote bags, genre changement de trou, changement d'objet.
Bah, tu risques. Si c'est la même personne, tu risques de. Bah, en l'occurrence, là, de lui refiler une cystite de ouf. Oui. Après, si tu changes de trou chez deux personnes différentes, bah, tu risques de refiler une IST malgré la capote, parce qu'il y en a dessus.
Il planta le godemiché si profondément dans mon anus que j'ai eu l'impression qu'il me déchirait. Au même instant, ma jouissance s'est déclenchée. Mon ventre et mes reins étaient en feu. Puis, un liquide brûlant a jailli de moi. À ma grande honte, ma vessie se vidait et mon urine éclaboussait le visage de Fernand. Ses joues, son nez et ses yeux grands ouverts.
Ah, c'est une femme fontaine en fait, non?
Non, c'est l'urine.
Non, parce qu'elle parlait de l'urine.
Alors, on est de l'urine.
Je suis sûre que c'est toi qui as rajouté les yeux grands ouverts.
Oui. En fait, je voulais savoir ce que ça faisait.
Ça brûle?
De se faire pisser dans les yeux?
Ouais.
Tu me regardes, j'en sais rien. Mais...
t'as jamais fait de plan uro?
Bah, dans les yeux grands ouverts, non. D'accord. Je t'avoue, non.
Donc, je pense que ça doit brûler, je pense.
Ouais.
Bon, même de l'eau un peu tiède dans
déjà,
les yeux.
Déjà, du sperme, ça fait mal.
J'ignore aussi, mais.
Enfin, j'en sais rien.
Mais on peut boire?
On peut boire.
Ouais, c'est pas un problème de boire.
De boire.
L'urine.
Ah oui, c'est pas un souci. Non.
Oui, non, pour que ça soit non. Toxique, faut en boire vraiment des litres.
Ouais. Maxime, on travaille là.
Je me renseigne. Avec toute la bière que tu bois.
On reprend. Pour ne pas être vu par madame, nous nous étions cachés dans l'escalier de service. Il était allongé sur les marches de tout son long et gémissait trop bruyamment. Alors, pour qu'il ne fasse pas de bruit, je me suis assise sur son visage. Sa tête était entre deux marches, la nuque raidie, mais son membre également. Je lui ai écrasé le faciès avec mon pubis. Tout son corps tremblait comme un fakir.
Au niveau des cervicales, là,
c'est pas bon, là.
Le face-sitting...
Ouais. Bah, surtout coincé entre deux marches, quoi.
Ouais.
Ouais, on a un gros risque de fracture de la moelle.
C'est vraiment une mort bête en fait.
Ouais. Enfin, en même temps, ouais. Il a joli en même temps comme mort.
Oui, joli mais bête.
Petite mort.
Petite mort, grande mort. Ouais.
Vraiment,
ouais.
Vraiment fracture de la moelle carrément quoi. Moi, je pensais à un torticolis tranquille. Crac crac, c'est comme les érections de mon papy. C'est fini. D'ailleurs, c'est comme mon papy. C'est fini aussi. Oh.
Pauvre.
Merci beaucoup Julien Méniel. Il faut cliquer sur les vidéos YouTube dans ton corps. On va tous se coucher beaucoup moins bête. Et merci Fred Colby. On peut te lire sur ton blog fred-colby avec un y.com.
Tout à fait. Il faut vraiment aller voir leurs vidéos. C'est hyper important pour l'avenir de l'humanité. Vraiment.
Wow.
Merci les gars.
Wow.
Merci.
Merci à vous.
Merci également à Maxime Donzel.
Ouais. De rien.
Ouais, okay. Merci Maxime Donzel, Davy Mourier et le docteur Muriel Medaoui. On se retrouve dans 2 semaines sur toutes les plateformes de podcast et aussi dans toutes les bonnes pharmacies, car je le rappelle, ce podcast a un effet placebo.
Vous l'avez. Oh, merci, le groupe.
En attendant, n'hésitez pas à partager cette émission et à mettre un max d'étoiles. Salut à toutes
et à tous.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.